Sud-Ouest, donc situation à surveiller. Ensuite, est-ce que ça tournera à l'orage par l'Ouest ou pas? Ça, c'est encore incertain. On dira ça dans les prochaines heures.
Merci beaucoup, Marina. Dans 20 minutes maintenant, on sera avec Stéphane Boutsock pour les sorties ciné du mercredi. Et coup de cœur de Stéphane ce matin pour le film Avignon qui a triomphé au dernier festival de l'Alpe d'Huez. Merci d'écouter RTL. Très très bon début de journée. Il est 6h.
Jérôme Florin, RTL Matin.
Un nouveau journal avec vous, Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Et à la une ce matin.
Ces petites communes qui font la chasse aux poids lourds dans le nord, faute de police, c'est le maire qui dresse les PV. Un an après sa disparition lors d'une randonnée en Grèce, la famille de Françoise Bouteau est reçue aujourd'hui par la police judiciaire de Toulouse. Objectif, relancer les recherches. Sixième nuit consécutive d'attaques entre Israël et l'Iran. Elles ont notamment visé Tel Aviv. Reportage de l'envoyé spécial de RTL dans ce journal. Et puis alors que les fast-food partent à la conquête de nos campagnes, Saint-Amour dans le Jura dit non. Habitants, commerçants et élus viennent de lancer une pétition.
Après votre journal, Tom Lefebvre, vous allez en entendre parler ce matin.
Un nouveau sport à la mode dans les salles de fitness, l'aerox. Vous allez découvrir cette discipline.
À tout à l'heure.
RTL Matin.
C'est un fléau qui pourrit bien souvent la vie des habitants des petits villages, les poids lourds. Alors à Entières en Wep, dans le Nord, faute de police municipale, le maire verbalise lui-même les camions qui n'ont pas le droit de circuler dans la commune, Franck Hanson.
À l'entrée de la commune, des panneaux rappellent pourtant l'interdiction de circuler des plus de 3,5 tonnes. Mais ces camions sont de plus en plus envahissants. Ils confirment cette rive.
Normalement, ils ne sont pas censés passer. Quand l'autoroute A25 est bloquée, ils font un détour par ici. C'est compliqué, c'est vrai que ça bloque. De plus en plus, les camions passent devant.
Le maire Jean-Claude Flinois a décidé de passer à l'action en vertu de ses pouvoirs d'élu avec un téléphone directement relié au service des contraventions.
C'est un téléphone sécurisé avec un cryptage qui me permet d'avoir une liaison directe avec les services de l'État. On fait d'abord la photo du contrevenant. Il suffit de signer directement sur le téléphone et d'envoyer. Là, c'est 135 euros pour un camion.
Identifié en flagrant délit ou sur les images de vidéosurveillance, une poignée de poids lourds a déjà été verbalisée de toute nationalité.
J'ai toujours une peur, c'est quand je vois des nounous là, qui se promènent avec leurs poussettes. Le trottoir est très étroit. Quand je vois un camion passer, ça reste dangereux. Ça ne fait pas spécialement plaisir de mettre un procès. C'est la sécurité avant tout. Hein. Là, le bus, il a le droit. Oui.
L'exemple d'Entières en Wep fait aussi des émules chez d'autres élus en France. Monsieur le maire a déjà reçu plusieurs coups de fil.
Franck Hanson, correspondant de RTL dans le Nord. Toutes les Citroën C3 et DS3 équipées d'airbag Takata doivent rester au garage. Immobilisation immédiate qui concerne toute l'Europe, demandée hier soir par le constructeur automobile. Au total, cela représente plus de 80 000 voitures en France, en plus de celles qui avaient déjà été immobilisées. Réaction de Citroën après un nouvel accident mortel il y a une semaine à Reims, le 18e.
Un an après la mystérieuse disparition de deux Françaises, Françoise Bouteau et Marie-Pierre Hardel, lors d'une randonnée en Grèce sur l'île de Sikinos, les recherches arrêtées depuis octobre dernier pourraient bien reprendre.
C'est en tout cas ce qu'espère le fils de Françoise Bouteau, Frédéric Gilles. Il doit être entendu aujourd'hui par la police judiciaire à Toulouse.
Elles sont parties randonner ensemble vers le sud de l'île. Et à partir de là, on perd toute trace de Marie-Pierre Hardel. Et notre mère entre en contact avec le gérant de l'hôtel où elle avait pris une chambre. Ils ont une très brève conversation WhatsApp où elle lui indique qu'elle est tombée. Lui dit d'envoyer sa position GPS. Elle n'y parvient pas ou elle ne l'envoie pas. C'est la dernière trace de notre mère. Voilà. On sait aussi que avant d'appeler l'hôtelier, notre mère a envoyé des SMS au service d'urgence internationaux, le 112. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avant toute chose que des recherches de plus grande ampleur puissent être menées et surtout qu'elle puisse être appuyée par l'envoi d'une équipe d'enquêteurs français sur l'île de Sikinos. Enquête en coopération avec les autorités locales, bien entendu. Ce qu'on voudrait aussi, en sollicitant la justice française, c'est pouvoir accès à tous les éléments de l'enquête locale, c'est-à-dire le rapport global, mais aussi tous les procès-verbaux, les fouilles. Parce que si on n'a pas pu retrouver notre mère et si on n'a pas pu retrouver Marie-Pierre Hardel, c'est que peut-être on n'a pas cherché aux bons endroits et avec les bons moyens.
Frédéric Gilles au micro RTL de Valentin Larquier.
Il est 6h04 à l'étranger après l'appel de Donald Trump à une capitulation sans condition de Téhéran. La question ce matin, c'est celle d'une potentielle participation directe des États-Unis dans ce conflit.
Oui, et en attendant, les frappes se poursuivent pour la 6e journée consécutive. L'armée israélienne a annoncé ce matin viser Téhéran qui a, de son côté, appelé hier soir les habitants de Tel Aviv déjà touchés par des bombardements et où des explosions ont été entendues pendant la nuit à évacuer. Reportage sur place de l'envoyé spécial de RTL, Émilie Beaujard.
Le colonel Ilradat se tient devant les décombres des 6 maisons pulvérisées par un missile iranien, un amas de ferraille et de béton. Ce chef de la police locale a du mal à réaliser l'ampleur des dégâts.
On voit ce qu'il reste de ce quartier résidentiel. Franchement, on ne comprend pas. Les Iraniens veulent juste nous effrayer, nous tuer et provoquer la panique chez nous. On savait qu'il y aurait des représailles, mais on ne pensait pas qu'ils viseraient des civils.
La majorité des habitants a eu la vie sauve grâce aux abris anti-bombes construits dans chaque bâtiment. Depuis plusieurs jours, des volontaires viennent aider à déblayer les gravats. Parmi eux, il y a Nir, 36 ans, qui préfère être dans l'action pour éviter de trop penser.
On est stressé et on a peur. J'ai une femme et deux enfants et on dort dans notre abri tous les soirs. Je m'inquiète pour eux. Des gens sont morts et j'ai peur qu'un missile nous tombe dessus. Ce n'est pas normal de vivre comme ça. Et j'espère vraiment que cette guerre va mettre fin à la menace iranienne.
Nir s'en remet au gouvernement et au système de défense israélien. L'armée estime qu'elle atteindra ses objectifs contre le programme nucléaire iranien d'ici une à deux semaines.
Émilie Beaujard, envoyée spéciale de RTL à Tel Aviv et en plein embrasement régional. Emmanuel Macron va réunir cet après-midi un nouveau Conseil de sécurité et de défense, le deuxième depuis vendredi dernier. Après 3 mois et demi de concertation, de conclave sur les retraites qui s'est achevé hier sans fumée blanche, une nouvelle journée vient d'être ajoutée au calendrier lundi prochain, le 23 juin. Mais les partenaires sociaux, pour qui le compte n'y est pas, hésitent encore, tant du côté du MEDEF que des syndicats.
Il est 6h06 sur RTL alors que les chaînes de fast-food tentent de conquérir les campagnes. La commune de Saint-Amour, dans le Jura, dit non.
Oui, et commerçants, élus et habitants redoutent les conséquences de l'installation d'un McDonald's dans leur ville. Raphaël Vantard a rencontré ses riverains en colère pour RTL. Ils ont même lancé une pétition.
À l'entrée de la boulangerie de Nathalie, plusieurs feuilles remplies de signatures. C'est la pétition contre l'implantation d'un McDonald's ici à Saint-Amour, en plein cœur du Jura. Un projet de fast-food qui fait craindre le pire à cette commerçante.
Ça va tuer le centre-ville. Hein. Plus personne ne viendrait au centre-ville acheter des sandwichs. Ils iraient tous au McDonald's qui est vers Super U, donc ça va tous se concentrer là-bas, à la zone. Et puis nous, on n'existerait plus.
Sandrine, elle aussi, s'inquiète de l'arrivée potentielle du fast-food américain. Un projet qui pourrait dénaturer, selon elle, sa jolie petite ville.
C'est la malbouffe, c'est les déchets, on ne sait pas comment ça va être géré. Parce qu'un McDonald's, on voit très bien dans les grandes communes comment ça finit en général. Non, c'est dégradant pour un petit village, moi je trouve.
Clément habite à Saint-Amour, dans le Jura, depuis plus de 10 ans. Même s'il apprécie de temps en temps les hamburgers, il ne voit pas l'intérêt d'avoir un restaurant McDonald's à côté de chez lui.
On a tout ici pour dans le Jura, la Bourgogne, on a tout pour bien vivre, bien manger, bien boire. On n'a pas besoin de McDonald's.
Près de 500 personnes ont déjà signé cette pétition contre l'implantation du fast-food américain ici. Le permis de construire de la chaîne est encore à l'étude, mais comme il est sur un terrain privé et dans les règles du plan d'urbanisme, la mairie de Saint-Amour, pourtant hostile à cette installation, ne peut pas vraiment s'y opposer.
Raphaël Vantard.
Les courses aujourd'hui à Toulouse, départ 19h.
Et Dominique Cordier vous conseille de jouer le 3, le 2, le 12, le 10, le 11, le 6, hélas, l'outsider de RTL, c'est le 6, Generous Charm.
Merci beaucoup, Alban Le Prince. Vous revenez à 7h30.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. On achète de plus en plus de vêtements neufs. Les Français ont acheté l'an dernier 42 articles d'habillement neufs. C'est un de plus qu'en 2023. Alors qu'on nous dit qu'il vaut mieux acheter de la seconde main et faire attention, que c'est pas bon pour l'environnement. Qu'en pensent les auditeurs, Marina ?
Alors, Guillaume lui achète toujours du neuf pour lui, mais pour ses enfants, ce sera de la seconde main car il pousse tellement vite. Carole, elle achète aussi du neuf, mais qu'en période de sol, question prix. Françoise, pour les vêtements, elle achète du neuf, mais elle les garde longtemps. Elle porte encore des pièces qui ont plus de 20 ans. Et en plus, elle fait travailler un commerce proche de chez elle, puisqu'elle a un magasin fétiche en Dordogne avec Jack, le premier. propriétaire adorable, nous précise-t-elle. Madeleine, elle, a toujours du neuf, mais pareil, ça lui dure plusieurs années. Et enfin, Joseph, un petit conseil pour les tenues de travail. Il conseille la seconde main, car il y a une offre impensable, nous dit-il, avec des affaires portées ou pas, ou encore emballées. En tous les cas, il y a des pantalons et des vestes très pratiques, et parfois à des prix très bradés.
Acheter de plus en plus de neuf, c'est une aberration économique et écologique. C'est ce que nous dira tout à l'heure Martial You, qui sera dans la tablée du petit matin à 7h moins quart avec nous. À suivre votre rendez-vous pour découvrir l'info avant les autres ce matin, Tom Lefebvre, on va faire du sport.
Oui, en tout cas, on découvre cette nouvelle discipline qui cartonne, l'Aerox.
Et puis, au cœur de l'actu, cette question, va-t-on vers une flambée des prix des carburants avec la guerre Iran-Israël? On va en parler avec notre invité.
RTL Matin. Jérôme Florin jusqu'à 7h.
Travailler avec une personne de plus de 50 ans, quelle idée!
Ben moi, ça a été la réponse à tous mes problèmes. Ça fait 11 ans qu'Isabelle travaille dans mon entreprise et c'est l'employée la plus fiable. Elle se forme en continu et c'est elle qui s'y connaît le mieux en IA.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement. RTL.
Hâte de partir cet été, mais je crains les galères en voiture.
Tu veux rouler tranquille? Choisis les pneus Michelin, conçus pour assurer ta sécurité tout au long de leur durée de vie. T'en profiteras même après les vacances.
Tiens, du 2 juin au 27 juillet, il y a une promo sur les pneus Michelin. Jusqu'à 120€ TTC remboursés pour l'achat de 4 pneus voiture. J'achète?
Retrouvez les modalités de l'offre sur Michelin.fr, rubrique promo.
Bouleversé par le décès de mon père, ça a été un soulagement de découvrir qu'il avait pris un contrat de prévoyance obsèques chez Roc Éclair. Tout était financé, organisé. Roc Éclair s'est arrangé pour qu'on ait aucun frais avancé. Ça nous a permis de réaliser la cérémonie qu'il aurait souhaité.
En ce moment, 2 mois offerts pour tout contrat de prévoyance Roc Éclair conclu avant le 30 juin 2025.
Roc Éclair, là pour vous.
Hors prime périodique sur un an, distribué par Prévoyance FI. Conditions détaillées en agence et sur roqueclair.com.
Venez découvrir Je n'aime pas le classique, mais avec Alex Vizorek, j'aime bien à la scène musicale.
Oui, et Alex Vizorek, c'est moi. Je vais vous faire aimer la musique classique. Mais rassurez-vous, à ma façon, avec humour, un soupçon de pédagogie et surtout des musiciens incroyables. On va rire, on va apprendre, on va écouter du très bon son classique. Et même si vous pensez que vous n'aimez pas ça, celui-là, je vous promets, vous aimerez.
Je n'aime pas le classique, mais avec Alex Vizorek, j'aime bien, le 20 juin, à la scène musicale avec RTL. Vous allez en entendre parler.
Avec vous, Tom Lefebvre, tous les matins, vous dénichez l'info qui va faire parler. En l'occurrence, aujourd'hui, une nouvelle discipline qui monte en flèche dans les salles de sport.
C'est clairement la tendance du moment, le sport qui cartonne dans le monde du fitness. Ce sont d'ailleurs les championnats du monde en ce moment même à Chicago. Son nom est mystérieux, il s'appelle l'Aerox.
L'Aerox, alors qu'est-ce que c'est exactement?
Aerox. C'est un mélange redoutable, Marina, entre course à pied et exercice fonctionnel. Une compétition très structurée au format unique dans le monde entier. Vous faites 8 km de course et à chaque kilomètre, une épreuve de cross-training, à savoir pousser un chariot, porter un sac de sable, faire des fentes, envoyer un ballon lesté contre un mur, le tout sans aucune pause.
Ah oui.
On en ressort rincé, mais fier.
Ah oui, ça a l'air bien bien intense, mais du coup tout le monde peut s'y mettre ou alors c'est juste pour les athlètes bien confirmés?
Alors non, tout le monde peut s'y mettre, c'est l'un des gros points forts de l'Aerox. Le slogan c'est la compétition de fitness pour tous les corps. Il y a des catégories en fonction des âges, de 18 à 70 ans, avec des formats en solo, en duo ou en relais. C'est un concept ultra codifié qui permet de comparer ses scores d'un pays à l'autre, de quoi créer un vrai sentiment d'appartenance à une communauté mondiale du fitness. Autant vous dire que ce succès énorme est dû notamment aux réseaux sociaux, puisque chacun poste sa performance.
Évidemment. Et ça cartonne vraiment?
Ah, complètement. En avril dernier, il y avait d'ailleurs une gigantesque compétition au Grand Palais à Paris. Les 12 000 dossards sont partis en quelques minutes pour des inscriptions quand même à 130€ en moyenne. Dans le monde entier, on compte plus de 650 000 adeptes, principalement des trentenaires, des quadras. C'est une franchise très organisée, née en Allemagne en 2017, pensée dès le départ pour fédérer à l'échelle mondiale. C'est arrivé en France il y a à peine 2 ans. Les salles de sport doivent payer un abonnement, c'est une franchise, 1 500€ par mois pour proposer ce format, et ça fonctionne. Aujourd'hui, 5000 salles sont affiliées. Alors il faut faire appel à la force, à la vitesse, à la puissance, à l'endurance, mais chacun à son rythme, c'est un peu la règle. Et alors si vous êtes dubitatif, selon les statistiques officielles sur le site de la discipline, on lit que 98% des athlètes terminent leur course. Donc c'est difficile mais attractif, c'est faisable. Ça s'appelle l'Aerox, phénomène des salles de sport. Vous allez en entendre parler et qui sait, la discipline deviendra peut-être olympique dans les prochaines années.
Et on en aura entendu parler grâce à vous sur RTL. Merci beaucoup Tom Lefebvre.
RTL au cœur de l'actu.
Alors que Donald Trump laisse planer le doute ce matin sur une intervention militaire américaine en Iran, cette question, la guerre, cette guerre entre l'Iran et Israël va-t-elle avoir des conséquences à la pompe pour nous ici en France, à quelques semaines des départs en vacances? Très égoïstement, intéressons-nous donc au prix de ce qu'on va mettre dans nos réservoirs et on va le faire avec vous. Olivier Gantois, bonjour.
Bonjour.
Porte-parole des pétroliers en France, merci d'être avec nous en direct. D'abord, ça a bougé depuis vendredi, depuis les premières frappes.
En effet, comme d'habitude, les marchés pétroliers ont réagi de façon extrêmement rapide, c'est-à-dire que dès la nuit de jeudi à vendredi, le marché du pétrole brut, qui je le rappelle est un marché mondial, montait de 10 dollars par baril, ce qui fait que depuis on est aux alentours de 75-76 dollars par baril.
On est dans une région extrêmement sensible qui concentre 40% de la production mondiale de pétrole. Ça rend le risque de flamber des prix plus grand?
Disons qu'on pourrait à juste raison s'inquiéter d'une extension de ce conflit qui pour l'instant est un conflit entre l'Israël et l'Iran à un conflit avec de nature pétrolière. Mais pour l'instant, ce que je tiens à signaler, c'est que aucune des deux grandes puissances pétrolières locales, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite d'une part et l'Iran d'autre part, ne souhaite que cette situation se transforme en conflit pétrolier.
Mais est-ce qu'une intervention militaire américaine, parce qu'aujourd'hui Donald Trump laisse planer le doute, est-ce qu'une telle intervention militaire pourrait avoir des conséquences sur les prix des carburants ?
Alors, je n'y crois pas, je dis bien je n'y crois pas, c'est-à-dire que au-delà de l'Iran et l'Arabie Saoudite, je peux dire avec assurance que les États-Unis ne souhaitent pas non plus que ça se transforme en conflit pétrolier, ne serait-ce que pour des questions électorales, parce qu'à ce moment-là, le prix du pétrole et le prix des carburants aux États-Unis augmenteraient considérablement. Je souligne également que la Russie et la Chine ne manifestent pas du tout d'intention de laisser ça transformer en conflit pétrolier. Donc vous voyez, mon propos c'est que aucune des grandes puissances qui s'intéressent à la région ne souhaite que ça dégénère en conflit pétrolier.
Donc ça veut dire pas d'intervention militaire américaine en Iran, c'est ce que vous dites ce matin, d'un strict point de vue économique.
Je ne vais pas jusque-là, ma connaissance se limite au domaine pétrolier. Je dis que intervention militaire ou pas, les différents acteurs se feront en sorte que ça ne se dégrade pas en conflit pétrolier.
Alors, l'Iran produit beaucoup de pétrole, on le sait. Si des installations de pétrole iraniennes sont détruites, est-ce que ça réduit l'offre et donc provoque une augmentation des prix ?
Pas vraiment. Pourquoi ? Parce que, bon, d'abord, l'Iran produit 3 millions de barils par jour, alors que le monde en consomme 104 millions. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que quand on parle d'une production de 3 millions de barils par jour, on parle de centaines de puits de production, de réservoirs de stockage de pétrole. Et donc, il faudrait avoir neutralisé chacun de ces puits de production ou de ces réservoirs de pétrole pour anéantir cette production. C'est quasiment impossible.
On est sur une zone stratégique pour l'économie mondiale, le détroit d'Ormuz, entre Oman, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Il y a plus de 20 millions de barils qui passent par là chaque jour. Si ce détroit est fermé, et certains pensent que c'est possible, il y aura pénurie, donc hausse des prix.
Alors, ce que je me permets de dire, c'est que justement, je pense que ce détroit ne fermera pas. Vous avez raison de dire que c'est un point névralgique pour l'approvisionnement pétrolier mondial. Mais étant donné qu'aucune grande puissance ne laissera faire cette situation, c'est un scénario qui, de mon point de vue, n'aura pas lieu.
Donc, il ne faut pas s'attendre à une hausse. Si on vous écoute bien ce matin, Olivier Gantois, il ne faut pas s'attendre à une hausse des prix des carburants, une hausse trop importante dans les semaines et les mois qui viennent.
Oui, alors tout est relatif, hein. Je n'ai jamais que des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que la fameuse hausse du pétrole de environ 10 dollars par baril qu'on a observée depuis vendredi dernier va être répercutée à la pompe. Ça devrait représenter entre 4 et 6 centimes par litre à la pompe, que ce soit sur les essences ou sur les diesels. Cette hausse n'a peut-être pas encore complètement été observée. Donc cette hausse, oui, elle aura lieu.
Mais on ne va pas redépasser les 2 euros.
Je n'y crois pas, c'est-à-dire que, encore une fois, je ne pense pas que les marchés pétroliers vont augmenter significativement plus que ce qu'ils n'ont fait instantanément vendredi avec plus $10 par baril.
Une question très pratique, Olivier Gantois, pour terminer. Certains seront peut-être tentés, là, dans les jours qui viennent, de faire des réserves de carburant avant les vacances. Est-ce que c'est autorisé?
Alors, on ne peut pas stocker du carburant ailleurs que dans le réservoir de sa voiture. Et deux, de toute façon, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. C'est-à-dire que les marchés pétroliers pourraient très bien se stabiliser au niveau auquel ils sont actuellement. Donc, spéculer sur le fait que le pétrole va continuer à monter en prix est pour moi tout à fait hasardeux.
Donc, pas de panique, hein, c'est ce que vous dites ce matin.
Oui, pas de panique, si je peux me permettre, oui.
Merci beaucoup, Olivier Gantois, porte-parole des pétroliers en France. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur RTL. Bonne journée.
Merci.
RTL Matin, Jérôme Florin.
À suivre dans le journal de 6h30, donc selon la presse américaine, Donald Trump qui envisage des frappes ciblées sur certaines installations iraniennes. Il a réuni son conseil de sécurité cette nuit après avoir demandé une capitulation sans condition de Téhéran. On y revient dans le journal de 6h30. Le football français perd un de ses plus illustres serviteurs. L'hommage de Didier Deschamps à Bernard Lacombe, l'ancien joueur et figure du football français, s'est éteint à 72 ans. On l'a appris hier soir, il avait été champion d'Europe en 1984 avec les Bleus. Il avait aussi relancé et dirigé l'Olympique Lyonnais. Et puis à suivre également dans votre journal à 6h30, les éboueurs de Niort en grève. Ils réclament de pouvoir travailler en short par ces fortes chaleurs. Reportage à suivre.
Laissez-vous tenter, première.
Avec vous, Stéphane Boutsock. Bonjour Stéphane.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
On vous emmène au cinéma évidemment avec vous, avec la sortie du film Avignon. Alors vous avez adoré, Stéphane, cette comédie qui a triomphé au dernier festival de l'Alpe d'Huez.
Oui, meilleur film et grand prix du jury. Carton plein en effet pour ce film de Johan Dionnet qui raconte les mésaventures de Stéphane, jeune comédien incarné par Baptiste Le Caplain, spécialisé dans le boulevard et qui va, pour séduire une jeune comédienne qui joue, elle, du Victor Hugo, lui faire croire qu'il vient en Avignon pour jouer le Cid. Alors qu'en fait, il est à l'affiche de Ma sœur s'incruste. Sa meilleure amie, Alison Wheeler, s'en émeut.
T'es vraiment trop con, je comprends pas. T'as honte de ce que tu fais?
Pas du tout, je suis très content de faire marrer les gens.
Faut lui dire la vérité. Tu vas pas faire croire que tu joues le Cid pendant tout Avignon.
Ben, en tout cas, elle a pas l'air surprise que je joue Rodrigue.
Alors calme-toi, déjà, il y a deux jours que tu savais pas qui c'était.
Si, je sais très bien qui c'est. C'est juste qu'au début, j'avais pas compris que Rodrigue et le Cid, c'était la même personne. Moi, je pensais que c'était un gars qui était de passage comme ça dans la pièce.
T'es acteur et tu connais pas le Cid.
Parce que toi, tu connais tout, peut-être.
Le Cid, oui, c'est un classique.
Ben alors, Bienvenue chez les Ch'tis aussi, c'est un classique. Et pourtant, tu l'as pas vu, donc ça va, ferme ton cul.
C'est formidablement écrit, c'est irrésistible et tendre à la fois. J'ai demandé à Baptiste Le Caplain, dont c'est le vrai premier rôle au cinéma, de nous raconter comment il a fini par se retrouver sur scène, lui qui ne vient pas du tout de ce monde-là et qui se prédestinait plutôt à l'enseignement.
J'avais très envie de faire rire inconsciemment parce que j'étais quelqu'un de très réservé, très timide et j'aimais pas me faire remarquer. Mais en fait, je pense que c'est à force de voir des humoristes à la télé. J'ai ingurgité, j'étais passionné par ça, je retenais très vite les blagues.
C'était qui vos idoles?
Oh bah il y avait Franck Dubosc. C'est les premiers sketchs que j'ai joués, c'était Franck Dubosc. J'étais estomaqué par ce qu'il faisait. Et après, l'envie de jouer quelqu'un de sympathique et d'être aimé et tout, c'est Robin Williams dans Le Cercle des Poètes Disparus. Oh. Je me dis putain, le gars il fait la voix du génie d'Aladin, après il fait ça, après il fait Madame Doubtfire, qui est un film incroyable. Et comme je savais pas que je pouvais devenir humoriste et en faire un métier, je me dis bon bah je vais être prof d'anglais, j'avais un bon niveau d'anglais, mais je voulais être le Robin Williams des profs d'anglais quoi. Et à la fac à Rennes, j'ai vu le spectacle de Franck Dubosc romantique et j'ai dit non mais c'est ridicule, je suis en train de perdre mon temps, je vais écrire des sketchs.
Baptiste Le Caplain à l'affiche du formidable Avignon, à découvrir donc au cinéma ce mercredi.
Eh ben on ira, on suivra vos conseils. Merci beaucoup Stéphane.
Laissez-vous tenter, première.
Mais avant d'aller au cinéma ou après avoir été au cinéma, on écoutera évidemment les grosses têtes. C'est tous les jours 15h30, 18h avec Laurent Ruquier. Et cette question, connaissez-vous le gombok?
Non.
Le gombok, en fait, c'est un culbuto, c'est ça?
Oui, sauf que le culbuto, il est lesté. Alors que le gombok, c'est un solide homogène. Il n'y a pas une différence de poids. Dans la nature, on a trouvé des tortues qui ont une carapace en forme de gombok, ce qui fait que la carapace termine en pointe. Et quand elles se mettent sur la carapace, elles sont sur l'équilibre instable. Et donc, en bougeant un tout petit peu, elles peuvent...
Oh, c'est pas vrai.
Oui, si. Et donc ça, c'est assez dingue. Parce qu'on a découvert le gombok tout récemment, il y a moins de 20 ans, mais les tortues avaient déjà découvert le gombok avant nous.
Vos grosses têtes avec aujourd'hui Philippe Gueluc, Ziz Dupanier, Jean-Philippe Janssen, Constance, Valérie Mérès et Christophe Barbier. Marina, il fait en ce moment 9 degrés à Guéret, 22 à Nice.
Oui, on profite de la fraîcheur à Guéret parce que ça ne durera pas.
RTL. Bonne matinée sur RTL. Renault.
Professionnel, vous hésitez à passer à l'électrique ? Avec une autonomie jusqu'à 460 km et une charge utile jusqu'à 1625 kg, Renault vous accompagne dans votre transition avec sa gamme d'utilitaires e-tech électriques assemblées en France. Découvrez Renault Kangoo Van, Trafic Van et Master. En ce moment, l'électrique est au prix du diesel.
Master selon version, cycle WLTP. Véhicule utilitaire électrique neuf au même loyer que leur équivalent en version diesel pour contrat de crédit bail et accordiaque. Offre non cumulable réservée aux professionnels du 1er au 30 juin. Conditions sur professionnel.renault.fr.
Chaque année, près de 30 000 personnes sont secourues par les sauveteurs en mer. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les bénévoles de la SNSM veillent sur vous. Mais n'oubliez pas que c'est grâce à vos dons qu'ils accomplissent leur mission. Depuis 200 ans, et pour longtemps, donner à terre, c'est sauver en mer. Faites un don sur snsm.org.
On peut penser que pour partir en vacances en famille avec une voiture neuve, on doit attendre des mois et des mois. Ou on peut choisir Dacia Jogger. Disponible immédiatement chez votre concessionnaire pour profiter des vacances d'été. En 5 ou 7 places, avec motorisation hybride ou GPL, vous n'avez plus que quelques jours pour profiter d'offres très avantageuses sur une sélection prête à partir.
Offre particulière jusqu'au 30 juin seulement, dans la limite des stocks disponibles dans le réseau Dacia participant. Pensez à covoiturer.
Julien Courbet règle vos problèmes en direct sur RTL.
Artisanat et famille, font-ils bon ménage ? Eh bien, pour l'auditeur qui va passer à 10h, non, puisqu'il choisit un entrepreneur qu'il pense être sérieux. C'est son cousin. Eh bien, celui-ci va lui prendre 80% de la somme et ne jamais finir les travaux. Il se retrouve maintenant avec une catastrophe sur les bras. On se retrouve à 10h en direct sur RTL.
Ça peut vous arriver. L'émission leader en France de 10h à midi.
Place à des vacances sans nuages avec Homer. 450 000 villages en France et en Europe. Réservez sans tarder sur homer.com.
Homer.
Marina, donc il fait 9 degrés là en ce moment à Guéret dans la Creuse, 28 cet après-midi, donc il faut profiter maintenant.
Oui, l'amplitude thermique sera très importante entre le matin et l'après-midi, parce que oui, cet après-midi, les températures vont encore grimper par rapport à hier après-midi. On va gagner encore 1 à 2 degrés, donc 28 à Guéret, mais alors on ira jusqu'à 35. 35, c'est ce que l'on attend cet après-midi à Nîmes. Il fera 33 à Cognac, à Limoges et à Perpignan. Vous aurez 32 à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux et à La Rochelle, 31 à Lyon, au Mans et à Nantes, 30 degrés pour Paris cet après-midi, 30 aussi à Strasbourg, à Besançon et à Clermont-Ferrand, 28 donc à Guéret mais aussi à Lille, 25 à Brest, et donc c'est un peu plus respirable en allant vers la Manche puisqu'on aura 23 au Havre et 22 à Cherbourg.
Et dans le ciel, ce sera du tout bleu.
Oui, le bleu va dominer, hein. Franchement, ce matin, le seul petit bémol, c'est vers les côtes nord de la Bretagne ou encore les côtes de la Manche où localement il y a des brumes et des brouillards, mais qui vont vite se dissiper. Sinon, partout ailleurs, rien à signaler, du bleu. Cet après-midi, on conserve le bleu quasiment partout. Alors, si on veut chipoter, on va parler des petits cumulus qui seront présents.
Chipotons.
Sur le nord-est du pays, mais ça donnera juste des petits points blancs là, dans le ciel bleu. C'est pas bien méchant. Peut-être une ondée en montagne sur les Alpes du Sud et le relief corsé encore, c'est pas sûr. Mais sinon, partout ailleurs, ce sera ciel bien dégagé.
Un soleil en vue sur le pays lensois, nous écrit Daniel sur le groupe Facebook de l'émission. On vous souhaite un excellent début de journée. Nous sommes le mercredi 18 juin. On fête un bon anniversaire aujourd'hui à Sir Paul McCartney. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. 83 ans aujourd'hui pour le géant de la musique Paul McCartney. Tellement de tubes.
Et votre préféré maintenant ?
Ah, bah Here, There and Everywhere. Titre de l'album Revolver, je parle sous le contrôle de Florian Gazan.
Mais tout à fait, je vous contrôle.
windy night.
Paul McCartney qui fête ses 83 ans aujourd'hui. Dans un quart d'heure, votre tablé du petit matin avec toute l'équipe qui est là, qui est présente, qui est en pleine forme. Isabelle Saporta, Marina, Martial You et Florian Gazan. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Isabelle, trop de légions d'honneur posthume.
Oui, écoutez, on honore que nos morts en fait en France et voilà, c'est assez infernal.
Martial, c'est un sujet qui fait beaucoup réagir ce matin nos auditeurs. On achète encore trop de vêtements neufs.
Voilà, 10 millions par jour l'an dernier, 42 par personne. Et pendant ce temps-là, on va pleurer évidemment sur la mort de nos petites boutiques.
Marina, aidez-nous avec cette vague de chaleur qui commence. D'ailleurs, on va en parler dans le journal dans quelques instants. Quelle couleur privilégiée pour s'habiller? Plutôt noir, plutôt blanc?
Alors, plutôt blanc, mais il y a des moments où le sombre eh bien, est plutôt frais.
Florian, les pourquoi de l'info ce matin?
Et aujourd'hui, c'est la sortie d'Elio, le dessin animé Pixar de l'année. Pixar, les créateurs de Toy Story, Ratatouille, vice-versa. Et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi ce studio doit sa survie à une lampe de bureau. Parce que tout n'a pas été rose pour Pixar.
À tout à l'heure, vous écoutez RTL, nous fêtons les Léonces aujourd'hui, bonne fête. Il est 6h30.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
Et on accueille Isabelle Choquet pour le journal. Bonjour Isabelle.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
L'actualité ce matin, c'est notamment cette chaleur dont nous parle Marina à Niort. Les éboueurs menacent de faire grève.
Non, pas contre la chaleur, mais parce qu'on leur interdit de travailler en short et le pantalon est difficilement supportable, vous allez l'entendre. Dans ce journal également, le conflit entre Israël et l'Iran. Donald Trump laisse planer la menace d'une intervention américaine pour éliminer l'ayatollah Khamenei. La Belle et la Bête version moderne, la BD polémique de Jules sort aujourd'hui, on a testé pour vous. Et puis l'appel du 18 juin, il y a 85 ans exactement, le manuscrit est enfin accessible au public.
RTL Matin.
Ça ne vous a pas échappé, il fait chaud, même de plus en plus chaud, trop chaud pour certains pour travailler en pantalon.
Oui, c'est ce que disent en tout cas les éboueurs de Niort. Le mercure doit monter à 31 degrés aujourd'hui, jusqu'à 37 dans les jours qui viennent. Et ils aimeraient bien pouvoir travailler en short, mais la mairie refuse, ça n'est autorisé qu'en cas d'alerte canicule. Alors les éboueurs ont déjà fait grève jeudi dernier, ils sont prêts à recommencer. Et en attendant, Johanna Chabas, certains ont décidé de braver l'interdiction.
Les éboueurs ont repris la collecte des déchets pour ne pas pénaliser les habitants, mais ils sont une quinzaine à travailler en short malgré les risques de sanctions. Michael Billy, délégué syndical CGT, veut se faire entendre.
À l'arrière du camion, il y a la réverbération du soleil sur le bitume. Il y a le camion qui produit de la chaleur. Il y a des camions qui sont vétustes aussi, certains qui n'ont pas de clim. C'est plus de 40 à 50 degrés, hein, certaines cabines. On a les moteurs des camions, ils sont sous la cabine. On monte dans un four, quoi. On veut travailler, mais on veut travailler dans des bonnes conditions.
Il demande un rendez-vous avec les élus de l'agglomération pour changer les règles, mais Jean-François Mougard, directeur général adjoint en charge de la collecte des déchets, insiste, le short restera interdit pour des raisons de sécurité.
C'est des risques de souillure avec des produits qui sont dans les poubelles, c'est des risques de coupures, pourquoi pas des morsures par des chiens qui courent après des rippers. Bref, la sécurité prime sur le confort, je crois.
Il assure qu'un rendez-vous sera bien pris avec le syndicat et pour les éboueurs qui ont travaillé en short, il promet des sanctions pour pouvant aller jusqu'à 3 jours d'exclusion avec retenue sur salaire.
Reportage RTL de Johanna Chabas. Le conclave sur les retraites. Après plus de 3 mois de discussion, pas de fumée blanche hier soir, mais un nouveau rendez-vous le 23 juin à la demande de la CFDT et de la CFTC. Cela dit, le MEDEF n'est pas certain de revenir à la table des négociations. Le patronat accusé de planter la discussion, ça bloque toujours sur la pénibilité et l'âge de levée de la décote.
Les États-Unis vont-ils passer à l'attaque en Iran? C'est la grande question ce matin et Donald Trump laisse planer le doute.
Le président américain affirme qu'il privilégie une solution diplomatique, mais dans le même temps, il agite la menace d'un assassinat du guide suprême iranien. Les États-Unis savent exactement où se cache l'ayatollah Khamenei, mais ils ne comptent pas l'éliminer, du moins pour le moment. Voilà ce qu'il a écrit sur son réseau social avec cette phrase en majuscule « Capitulation sans condition ». Hier, Benjamin Netanyahu affirmait que la mort du guide suprême mettrait fin au conflit, mais pour Emmanuel Macron, toujours présent au sommet du G7 au Canada, une intervention de ce genre, ce serait une erreur.
La plus grande des erreurs aujourd'hui, c'est de chercher, par la voie militaire, à faire un changement de régime en Iran. Parce que ce sera là le chaos. Oui à ce que l'Iran n'ait jamais l'arme nucléaire. Oui pour contenir le nucléaire civil et l'encadrer de manière internationale. Oui pour réduire son programme balistique. Oui pour réduire toutes les aides aux groupes régionaux qui créent la déstabilisation depuis tant d'années. Non aux frappes sur les infrastructures énergétiques. Non aux frappes contre les populations civiles. Et non aux actions militaires qui conduiraient à un changement de régime parce que personne ne sait dire ce qui vient après.
Emmanuel Macron au micro RTL de Bénédicte Tassard, le chef de l'État qui réunit un conseil de sécurité et de défense cet après-midi à l'Élysée, le deuxième depuis l'attaque israélienne vendredi dernier. À sa façon, l'ayatollah Khamenei a répondu aux menaces américaines avec ce post sur X. La bataille commence, en vérité elle continue, les gardiens de la révolution affirment avoir tiré des missiles balistiques hypersoniques cette nuit sur Israël. L'État hébreu qui continue de son côté à frapper Téhéran. Pour l'instant, la France n'envisage pas de rapatriement de ses ressortissants. Ils sont environ 800 en Iran, complètement désemparés, selon Armand Meyman, c'est le représentant des Français installés en Asie centrale.
Je reçois beaucoup de questions très alarmantes. Les gens ne savent pas quoi faire. Il faut dire que nous avons reçu de la part de l'ambassade, notre ambassade de France à Téhéran, deux fois le même mail, nous incitant à être prudents. Sans autres détails, simplement les aéroports sont fermés, les gens se demandent comment ils doivent se conduire. Malheureusement, nous n'avons pas les instructions nécessaires ni pour nous rassurer si la situation se détériore ou continue même en l'état actuel. Les gens qui me contactent sont totalement affolés et je n'ai aucune instruction à leur donner.
Armand Meyman avec Yves Calvi dans RTL Soir.
C'est une BD qui a fait polémique il y a quelques mois. La Belle et la Bête du dessinateur Jules sort aujourd'hui.
Une version moderne qui mêle le texte original du conte et des illustrations humoristiques. Alors ça devait être le cadeau de fin d'année des CM2, mais au mois de mars, l'Éducation nationale a annulé toute sa commande, 800 000 exemplaires, estimant que certains dessins n'étaient pas adaptés à des gamins de 10 ans. Hortense Crépin, vous avez montré ce livre à des parents, des grands-parents. Les avis sont partagés.
Oui, devant les dessins des sœurs de Belle habillées en mini-jupe, Christine semble perplexe. Elle est grand-mère de 7 petits-enfants.
Non, je pense que c'est un livre qui peut ressembler à un peu de politique, entre guillemets. Il y a 2-3 choses ouais, qu'il faut retirer.
Et notamment ces dessins du père de Belle, un Algérien qui, à peine arrivé en France, se fait arrêter pour contrefaçon, pas adapté pour permettre au CM2 une lecture autonome d'après le ministère.
Et alors, c'est ça qui est traumatisant.
Une décision que ne comprend pas Nadia.
Voilà, il y a des choses qui sont ancrées dans le réel avec les ordinateurs, les tablettes, les machins. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt familier de l'univers d'un enfant.
Vous pourriez totalement l'acheter pour vos neveux, nièces.
Moi, j'ai un neveu qui a 9 ans qui va venir, là. Pourquoi pas ?
Amos, lui, est en 6e et il aurait compris le livre s'il l'avait reçu l'an dernier.
Ça passerait pour certains, mais pas pour tous. Quand on rentre au collège, on rentre vraiment dans la maturité.
Et à défaut d'avoir le livre à la maison, le garçon le retrouvera peut-être dans la bibliothèque de son collège.
Hortense Crépin, spécialiste éducation d'RTL. Le scandale des airbags Takata continue de s'étendre après un nouveau décès en France, à Reims. Citroën a demandé hier soir l'immobilisation immédiate de toutes les C3 et DS3 concernées en Europe. Plus de 440 000 voitures se retrouvent donc à l'arrêt, dont 82 000 en France, en plus de celles qui avaient déjà été immobilisées. Et puis si vous avez des tickets restaurants, sachez que leur utilisation en supermarché pour tous les produits alimentaires va être pérennisée. Jusqu'ici, il n'y avait qu'une dérogation. C'est la ministre du Commerce qui l'annonce dans Ouest France. Elle précise que cela va de pair avec une dématérialisation générale.
La mort d'une figure du foot français, on l'a appris hier soir, un pilier de l'Olympique lyonnais. Bernard Lacombe vient de disparaître, il avait 72 ans.
Et il a tout fait à Lyon, joueur, entraîneur, dirigeant, même si c'est avec les Girondins de Bordeaux qu'il a vraiment connu le succès. Il est d'ailleurs le deuxième meilleur buteur de l'histoire en championnat. En basket, Paris creuse l'écart avec une victoire sans appel sur Monaco, 92-67. Le Paris Basketball n'est plus qu'à une victoire de son premier titre de champion de France.
Nous sommes le 18 juin. Une date qui évoque immanquablement le général de Gaulle.
Il y a 85 ans exactement, il lançait depuis Londres son célèbre appel fondateur de la France libre, appel peu entendu en fait à l'époque et dont il ne reste aucune archive sonore, juste un manuscrit confié à l'État par les petits-enfants du général et il sera présenté au public ce soir au Musée National des Archives en présence de son petit-fils Yves de Gaulle.
Ce sont 4 feuillets extraordinairement raturés parce que mon grand-père n'a pas cessé de l'écrire et de le recommencer. Il représente le symbole matérialisant une possibilité extraordinaire qui est qu'il n'y a pas d'obstacle à la volonté humaine. Franchement, le général de Gaulle, il est parti avant, il était tout seul, il avait son aide de camp, c'est tout. Il s'est dit, oh là là, enfin, en lui-même, mais dans quelle aventure est-ce que je me suis lancé? Et je n'ai qu'une espérance immédiate, c'est de faire en sorte que je sois rejoint. Par qui? Par des gens politiquement mieux connus que moi, militairement plus gradés que moi, qui viendraient à Londres pour continuer le combat et continuer la lutte. Ça, c'est pas produit. Et à partir de ce moment-là, il s'est dit, ben, j'assume. J'assume, et c'est moi qui vais, entre guillemets, endosser et conduire la France libre.
Le petit-fils du général de Gaulle, Yves de Gaulle, au micro RTL de Clémence Duchesne. Ce manuscrit sera donc visible jusqu'au 1er septembre aux Archives Nationales à Paris. C'est à l'hôtel de Soubise, dans le 3e arrondissement.
Merci beaucoup Isabelle Choquet, on vous retrouve à 8h.
Avec plaisir, à tout à l'heure.
À tout à l'heure. On va en parler dans la tablée du petit matin dans quelques instants. On achète de plus en plus de vêtements neufs. Alors qu'on nous dit qu'il faut faire attention et que de plus en plus de gens disent privilégier la seconde main. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? On vous pose la question ce matin.
Alors, Pénélope, elle achète de temps en temps du seconde main, mais pour de très belles pièces, à des marchands très précis, à des prix défiant toute concurrence, et elle priorise le made in France, ce qui n'est pas toujours très facile à faire. Marlène, elle achète des vêtements neufs, mais quand elle fait des brocantes, ensuite elle fait un tri chez elle, puis elle revend ses vêtements. Emmanuelle n'achète pas du seconde main, car elle a tout simplement peur des mythes. Et puis Odile, elle achète en neuf que ses chaussures, sinon tout le reste elle l'achète sur Vinted.
Merci beaucoup Marina Marcialiou, vous nous direz qu'acheter de plus en plus de vêtements neufs, bah c'est pas très logique aujourd'hui.
Voilà, c'est pas très logique et puis on va balayer un peu devant notre porte aussi, parce que d'un côté on pleure sur la fermeture des boutiques, mais on se jette sur des vêtements à 15€ sur Temu.
Restez avec nous sur RTL, il est 6h39.
Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct vidéo.
Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application.
Les ados peuvent télécharger toutes sortes d'applications depuis les App Store, y compris celles qui ne sont pas adaptées à leur âge. C'est pourquoi Instagram demande une réglementation européenne exigeant la vérification de l'âge et un accord parental sur l'App Store. Plus d'infos sur instagram.com/accordparental.
Cofidis présente projet numéro 7, le projet qui reste sur le carreau. Oh non, vous en avez assez des rêves qui se brisent. Avec Cofidis, c'est simple pour financer vos projets. Jusqu'au 30 juin, Cofidis propose un prêt personnel à taux exceptionnel. Et c'est pendant 2 semaines seulement sur cofidis.fr. Cofidis. Le crédit qui fait la différence. Délai légal de rétractation.
RTL présente Sting sur scène dans The Last Ship, une production musicale spectaculaire pour la première fois en France à partir du 18 février 2026 à la Scène Musicale à Paris. Infos et réservations en point de vente habituel. The Last Ship, écrit et composé par Sting. Un événement France Télévisions et RTL.
Former une personne de plus de 50 ans, c'est une blague.
Mais au contraire, pour moi, c'est très sérieux. Quand j'ai formé Marc, 59 ans, à la soudure laser, j'ai su que je pourrais faire confiance à son expérience. En plus, maintenant, c'est lui qui forme les nouveaux.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Jérôme Florin,
RTL Matin.
Après un nouvel accident mortel la semaine dernière, Citroën demande l'immobilisation immédiate de toutes ces C3 et DS3 encore en circulation et qui sont équipées d'airbags Takata. Ça représente plus de 440 000 véhicules en Europe, dont 82 000 en France. On y revient dans le journal de 7h. Selon la presse américaine, Donald Trump envisage des frappes ciblées sur certaines installations iraniennes. Il a réuni cette nuit son conseil de sécurité après avoir demandé une capitulation sans condition de Téhéran. Il affirme que les États-Unis savent exactement où se trouve l'ayatollah Khamenei, mais qu'ils n'ont pas prévu de l'éliminer, du moins pour le moment. C'est ce qu'a écrit Donald Trump. L'OL, c'est grâce à lui, Jean-Michel Aulas, l'ancien président lyonnais, rend hommage à Bernard Lacombe, dirigeant historique du club et figure du foot français, qui s'est éteint hier à l'âge de 72 ans. Buteur imparable, il avait connu la gloire avec les Bleus, champion d'Europe en 1984. Nous sommes le mercredi 18 juin, on est ensemble pour votre tablée du petit matin. Les Français achètent encore beaucoup trop de vêtements neufs, aberration économique et écologique, nous dira Marcialiou dans un instant. Et en parlant de vêtements, tiens, on vous dira comment s'habiller quand il fait chaud en ce moment, ce sera avec Marina. Mais tout d'abord, Isabelle Saporta, alors que Mélanie, cette surveillante tuée la semaine dernière à coups de couteau par un collégien, a été inhumée hier, on apprend, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui l'a annoncé, on apprend que Mélanie, cette jeune femme, recevra la Légion d'honneur à titre posthume.
Oui, c'est quand ils sont morts qu'on les décore, nos professeurs et nos surveillants. Jamais on ne leur rend hommage de leur vivant. Ces sentinelles de la République le mériteraient 1000 fois. Pourtant, il y a quelque chose de presque indécent à ne leur donner la Légion d'honneur qu'une fois qu'ils ont été assassinés. C'est déjà ce qu'on avait fait pour Samuel Paty, ce professeur d'histoire assassiné par un jeune radicalisé. C'est déjà ce qu'on avait fait pour Dominique Bernard, ce professeur de lettres, assassiné lui aussi par un élève radicalisé. Et c'est donc ce qu'on fait encore pour Mélanie, cette surveillante assassinée par un adolescent adolescent prétendument sans histoire, mais qui avait quand même déjà fait l'objet de deux exclusions temporaires et qui voulait tuer froidement à coups de couteau une surveillante, n'importe laquelle, pour se venger d'une avanie mineure, et ce alors même que les gendarmes procédaient à un contrôle des sacs des élèves. Pourquoi faut-il toujours attendre que ces éducateurs soient morts pour les traiter avec considération ? À quoi elles leur servent désormais ces récompenses ? Elles ne leur rendront pas la vie, elles ne les rendront pas à leurs proches, elles nous donnent juste bonne conscience pour ne pas avoir su protéger ceux qui désormais sont en première ligne pour sauver ce qui peut l'être encore de notre République.
On entend ce que vous dites, Isabelle, mais c'est un hommage quand même qui est rendu à leur courage.
Oui, j'aimerais croire qu'il s'agit d'un hommage rendu à leur courage, à leur engagement, à leur abnégation. Je crois hélas qu'il s'agit d'un peu de baume que l'on passe sur notre mauvaise conscience, une marche blanche, une minute de silence, une légion d'honneur à titre posthume, comme si la société n'était capable d'offrir à ses éducateurs qu'une compassion post-mortem. Mais la France ne peut pas se résoudre à devenir une machine à pleurer ses morts. Notre pays doit être capable de protéger ses vivants et de les honorer pendant qu'ils le sont encore.
Merci beaucoup Isabelle, ça porte à un point, c'est tout. Il est 6h47, Martial You, 42 vêtements neufs dans l'année. Voilà ce que nous avons acheté l'an dernier selon une enquête, l'enquête de ReFashion, l'organisme qui fait la promotion de la seconde main et des vêtements d'occasion. 42 vêtements neufs dans l'année, c'est beaucoup quand même.
Ah oui, c'est beaucoup. C'est même une aberration économique, sociale, écologique. Puisqu'on parle de prêt-à-porter, il va falloir se regarder dans le miroir. Parce qu'on ne peut pas pleurer sur la disparition des Camailleux, Pimki, San Marina ou Koukaï et continuer à acheter autant de vêtements neufs dont on n'a pas forcément besoin.
Mais pourquoi ? Parce que ce sont des vêtements de mauvaise qualité, c'est ce que vous dites ?
2,9 milliards d'habits. 259 millions de paires de chaussures. Ça en fait 4 par Français. Hein, 362 millions de draps et de serviettes. La moyenne des prix de tous ces produits était de 15,60 euros l'unité. Donc on est clairement sur de l'entrée de gamme. On en a vendu 10 millions par jour. J'ai fait le calcul, ça fait 115 vêtements neufs par seconde.
C'est le poids des plateformes comme les Chinois, Shein, Temu ou AliExpress.
Alors oui, bien sûr, ces sites sont très efficaces. Ils sollicitent en permanence leurs clients pour les pousser à consommer. Et on sait que certains sites se moquent totalement de l'environnement, vendent des contrefaçons, oublient le droit du travail. Entre 2023 et 2024, Chine a vu ses ventes progresser de 58% en France et Temu de 178%. Alors, bien sûr qu'il y a un phénomène ultra fast fashion, mais il faut aussi qu'on fasse notre mea culpa à nous en tant que consommateurs.
Parce qu'on n'a pas besoin de tous ces vêtements ?
Et parce qu'on va ensuite pleurer sur la mort des petites boutiques de prêt-à-porter dans les rues commerçantes de nos villes. Mais bon sang, le e-commerce capte déjà plus d'un achat de vêtements sur 5. On pousse la porte d'un magasin au moment des soldes. Et quand on fait des études sur nos dressings, comme Movinga, eh bien on s'aperçoit que 2 vêtements sur 3 restent sur le cintre. Nous sommes les premiers responsables, pas les Chinois.
On est attiré par les petits prix quand même.
Oui, mais alors c'est un piège ça pour le pouvoir d'achat des classes moyennes, parce que les prix sont bas, oui, mais on multiplie les achats avec ces plateformes. Les marques de vêtements ont aussi leur responsabilité d'ailleurs dans la chute de certaines de leurs enseignes.
Comment ça ?
Les marques ont aussi fait la course finalement au petit prix en allant faire fabriquer leurs collections dans les pays à faible coût de main d'œuvre. Souvenez-vous de l'immeuble Rana Plaza au Bangladesh qui abritait des ateliers de confection et qui s'est effondré sur les travailleurs. 1135 morts. On a retrouvé des étiquettes dans les décombres de marques Camailleux, CEA, Benetton, Tex, Auchan. On a voulu faire baisser les prix et augmenter les marges. Et on a créé un drame social.
Et beaucoup de licenciements et de faillites.
Ici, évidemment, puisqu'on fabriquait la mode à petit prix, mais quand on ajoutait le coût du loyer de la boutique, le salaire des vendeurs, on restait plus cher que les Chinois. En 2023, le secteur a perdu 4000 emplois en France. On a délocalisé pour améliorer les marges et faire baisser les prix. Et aujourd'hui, la production Made in France dans l'habillement, c'est 3,3% de ce qu'on achète. Le reste vient de l'étranger. Les consommateurs et les commerçants ont détricoté la mode française, pas les Chinois.
Merci beaucoup Martial You. On va rester dans le textile avec vous Marina, parce qu'il va faire encore très chaud aujourd'hui. Les 30 degrés seront souvent atteints. Et c'est que le début, hein, parce que c'est une vague de chaleur qui s'annonce jusqu'au week-end inclus. Quand il fait chaud, on nous dit de porter du blanc plutôt que du noir. Rappelez-nous pourquoi.
Alors, parce que les couleurs ne réagissent pas de la même façon à la lumière du soleil. Les rayons solaires, lorsqu'ils touchent une surface, sont en partie absorbés, en partie réfléchis. Et plus la surface est sombre, plus elle garde la chaleur du soleil sur elle,
plus elle est claire, plus elle la renvoie. Donc on a moins chaud avec un t-shirt blanc qu'un t-shirt noir. C'est l'effet albédo dont je vous ai déjà parlé cet hiver avec la neige. L'effet albédo, c'est la quantité de lumière que tout objet réfléchit, et celui de la neige fraîche, bien blanche, est parmi les plus forts.
Alors si le blanc est la couleur qui réfléchit le plus la chaleur, pourquoi est-ce qu'il fait frais sous les arbres qui, eux, sont foncés ?
Alors parce que l'énergie du soleil n'est pas le seul critère qui entre en compte. Dans le ressenti, il y a aussi l'humidité. Un arbre, c'est comme un être humain en fait, ça transpire. Pour les végétaux, on appelle ça l'évapotranspiration. Et l'eau qui sort de l'arbre, eh bien, c'est de l'eau qu'il a puisée dans le sol, qui est beaucoup plus fraîche que l'air ambiant. Donc quand vous êtes sous un arbre, en fait, il y a plein de micro-gouttelettes fraîches. C'est la transpiration de l'arbre qui agit en fait comme un brumisateur naturel. Sous un arbre, la température peut baisser de 2 à 4 degrés, et encore plus si le sol c'est de la verdure ou si autour vous avez d'autres arbres.
Alors certains peuples de désert, je pense aux Touaregs notamment, portent parfois des vêtements foncés, bleus ou noirs, alors que les températures sont caniculaires. Comment on explique ça ?
Alors parce que là, la matière et la coupe du vêtement entrent en compte. Ils portent des vêtements amples et en fibres naturelles, et ça crée un effet ventilateur sur eux. Alors je vous explique. À même la peau, ils portent une légère tunique blanche en coton, qui est la matière naturelle la plus absorbante. C'est-à-dire que lorsqu'il transpire, déjà il reste au sec le tissu absorbant la transpiration. Et par-dessus, ils mettent un tissu sombre qui capte la chaleur, forcément. Donc entre les deux vêtements, la température grimpe et devient plus chaude que l'air à l'extérieur. Or, un air chaud, c'est un air qui monte, c'est de la physique. Donc l'air chaud entre les deux tissus sort par le col et par le bas du vêtement, alors que l'air à l'extérieur moins chaud entre. Ça crée un courant d'air. Oui. En fait, c'est le même mécanisme qu'un ventilateur, mais naturel.
Ben voilà, vous savez comment vous habillez aujourd'hui.
Exactement. Donc, soit en blanc, voilà. Soit du blanc, plus comme du son par-dessus, mais ample.
Comme un ventilateur d'Isabelle. Merci beaucoup. Marina, on pourra toujours aller se rafraîchir au cinéma, puisque c'est aujourd'hui que sort Elio. C'est le nouveau dessin animé signé Pixar, le studio créateur de Vice Versa, de Nemo, de Ratatouille. Et ce matin, Florian Gazan, vous allez nous expliquer pourquoi Pixar doit sa survie à une lampe de bureau, la fameuse lampe de bureau qu'on voit au début de tous ces films.
Oui, Pixar qui depuis pile 30 ans, et la sortie de son tout premier dessin animé, Toy Story, c'était en 1995 déjà, a attiré 60 millions de spectateurs en France, dont 8,5 millions l'année dernière avec Vice Versa 2. Et pourtant, au milieu des années 80, le studio américain était au bord de la faillite et venait de connaître une grosse vague de licenciements. Énième épisode d'une histoire aussi folle qu'un dessin animé Pixar.
Et elle commence quand cette histoire ?
Eh bien en 1974, à l'origine Pixar s'appelle Graphics Group, c'est une division informatique de Lucasfilm, la société de George Lucas, le papa de Star Wars, dont les revenus se mettent à baisser après la sortie de l'alors dernier volet de la trilogie, le retour du Jedi, et surtout George Lucas divorce de sa femme Marcia, et vous connaissez les divorces à l'américaine, donc il décide de vendre Pixar.
À qui ça ?
Eh bien à Steve Jobs, le créateur d'Apple, qui à cette époque a été viré de sa propre boîte. Il injecte de l'argent dans cette société et l'oriente vers la fabrication d'ordinateurs surpuissants destinés entre autres à l'imagerie médicale. Un gouffre et un échec total. Heureusement, un des employés de Pixar, John Lasseter, se fait remarquer par des petites animations qu'il fabrique pour vanter, comme il peut, les mérites de cet ordinateur. Notamment une qui met en scène une lampe de bureau articulée, réplique exacte de celle qu'il a pour bosser en face de lui. Une lampe donc que vous avez tous vue, si vous avez déjà vu un Pixar, puisqu'on la retrouve au début de tous leurs films. Oui. Elle traverse l'écran, elle saute sur le i du mot Pixar avant de l'écraser. Cette lampe Luxo, c'est le nom de la marque, et le petit film qui la met en scène, un film de démonstration. Donc je rappelle, va se retrouver nommé aux Oscars du meilleur court-métrage en 1986. C'est la première fois de l'histoire pour un dessin animé entièrement en 3D en images de synthèse. C'est le déclic qui permet à Pixar de décrocher des contrats pub, puis un contrat avec Disney pour réaliser son premier long-métrage, donc le fameux Toy Story.
Et voilà. C'est le début de la success story.
Voilà, qui conduit en 2006 Steve Jobs à revendre Pixar à Disney, montant de la transaction 7,5 milliards de dollars, lui qui l'avait acheté 5 petits millions 20 ans plus tôt à George Lucas, comme quoi il n'y a pas que pour l'iPhone qu'il avait été visionnaire, même si pour le coup, la lumière n'est pas venue de son cerveau génial, mais d'une petite lampe du bureau d'origine norvégienne.
La belle histoire du jour. Merci beaucoup Florian Gazan. L'autre belle histoire, c'est peut-être celle de Claudine qui remporte le séjour qu'on fait gagner ce matin, Marie. Marina.
Exactement, une escale découverte à l'hôtel 4 étoiles Côte-Ouest. Alors, ce sont 3 jours, 2 nuits pour 2 personnes avec des soins d'hydrothérapie. Et Claudine, on l'a au téléphone, il me semble.
Bonjour Claudine.
Oui. Bonjour Claudine.
Bonjour, bonjour Marina, bonjour. J'ai perdu le
Alors, c'est, moi, j'ai Jérôme. Attendez, je l'ai retrouvé, mon prénom c'est Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Alors, bravo à vous.
Merci beaucoup.
Vous nous écoutez depuis longtemps ?
Ah ben toujours, depuis toujours, et j'ai des téléphones dans toute la des radios allumées toute la journée dans toutes les pièces.
Bah c'est une bonne chose, oui. Ça vous a fait gagner. Vous savez avec qui vous allez partir pour cette escale découverte ?
Ah oui, oui, je vais trouver.
Sinon il y a 3 personnes, Martial, Isabelle et Florian qui postulent.
Oui. D'accord.
Oui, ça vous avez
ça pas.
Ça
a pas l'air de vous brancher trop.
Vous connaissez la Vendée, Claudine ?
Un peu, oui, mais j'habite à Maillé, à 20 km du Mans. Donc c'est pas loin pour moi, j'ai déjà été au Sable d'Olonne, voilà, c'est pas loin, j'ai un TGV et tout ce qu'il faut, donc il n'y a pas de souci.
Ce sera parfait, vous serez en face de la mer, vous ferez chouchouter, tout ça dans un cadre magnifique, ce sera du bonheur. Voilà.
Et puis je souhaite aussi à tous les commerçants le bonjour de mon petit village qui est si joli.
Et ben voilà, le message est passé. Bravo, chère Claudine. On vous dit à bientôt.
Merci, je vous remercie. Et bonne journée à vous tous.
Merci beaucoup. Et on rejoue évidemment, comme tous les jours, demain dans les petits matins. Restez avec nous. Il est 6h54 sur RTL. Votre matinale se poursuit dans un court instant avec Amandine Bégaud et Thomas Soto, qui reviendront notamment sur l'échec annoncé du conclave sur les retraites. Patronat et syndicats se sont quittés hier soir sans accord. Invité à 7h40, notez-le ce matin sur RTL, c'est Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. On détaillera aussi votre temps, Marina. C'est simple, hein.
Beau et chaud, oui. On peut dire chaud et beau si ça marche. Je crois, oui.
On peut dire bauche aussi.
RTL. Bonne matinée sur RTL.
Donc là, si je fais un entretien chez vous, ça veut dire que...
Ça veut dire que vous repartez avec un an de garantie Toyota Relax.
Allez.
Un entretien est égal à un an de garantie, tout simplement. Même si vous êtes jamais venu chez nous.
Oh là là, 1 égale 1. Avec des maths comme ça, j'aurais eu 20 au bac.
Eh oui, un seul entretien dans notre réseau agréé Toyota suffit pour bénéficier d'un an de garantie Toyota Relax, même si votre véhicule est d'occasion.
Vous êtes fort en maths ?
Ça va.
Toyota. Valable à l'issue de la garantie constructeur jusqu'au 10 ans ou 185 000 km de votre Toyota au premier dès 2 heures matin, voire conditions sur toyota.fr. Pensez à covoiturer ?
Il y a des choses que je n'ai jamais dites à ma famille. Mon fameux plat maison vient de chez le traiteur. Je leur fais croire que je deviens sourde pour qu'ils arrêtent de me demander des choses. Et non, le chat n'est jamais parti en vacances.
On peut ne pas tout dire à ses proches. En revanche, leur dire qu'on est donneur d'organes, c'est important. Le don d'organes sauve des vies. Alors, rappelez à vos proches que vous êtes donneur. Ceci est un message de l'Agence de la biomédecine, agence relevant du ministère de la Santé.
Ah ça ira, ça ira, ça ira, chez Citroën nous on ira. Ah ça ira, ça ira, ça ira, nous ce qu'on veut c'est des prix bas.
Pendant les journées révolutionnaires, profitez de prix canon,
canon, canon, canon,
sur tous nos modèles Citroën, chez l'un de nos 1300 agents partout en France.
Ah ça ira, ça ira, ça ira, des journées comme ça, on attendait que ça.
Citroën. Offre valable jusqu'au 30 juin dans le réseau d'agents participants.
Pensez à covoiturer.
Laurent Deutsch sur RTL. Entrez dans l'histoire.
Tout à l'heure, hissez les voiles et sortez les sabres. Car on prend la mer avec un homme qui sent la poudre, le sel et la liberté, Jean Bar. Le corsaire au service du roi soleil. C'est pour tout à l'heure, à 15h, d'entrer dans l'histoire sur RTL.
Entrez dans l'histoire, c'est l'émission d'histoire la plus écoutée de France.
Place à des vacances sans nuages avec Homer. 450 000 villages en France et en Europe. Réservez sans tarder sur homer.com.
Homer.
Pascal nous écoute à la boule, il nous envoie un SMS. 15 degrés, temps clair aujourd'hui.
Oui, qui profite de ce 15 degrés parce que ça va s'accentuer. Bon, on respire hein, encore ce matin. 9 à Guéret, on a 10 degrés à Caen, il fait 13 à Lille. J'ai envie de vous dire, ouvrez les volets, ouvrez les fenêtres parce que ça va vraiment être beaucoup, de plus en plus chaud au fur et à mesure de la semaine. 17 à Paris, mais déjà chaud hein, en Méditerranée puisqu'il fait 20 degrés à Toulon et on a 22 à Nice. Ce sont les températures, la relevée à 6 heures. Pour ce qui est des températures prévues, cet après-midi, 35 à Nîmes, ouais. 33 à Perpignan et à Cognac, 32 à Bordeaux et à Marseille, 32 à Grenoble, à La Rochelle et à Toulouse. On gagne 1 à 2 degrés hein, par rapport à hier après-midi. 31 au Mans et à Nantes. Vous aurez 30 à Paris cet après-midi, mais aussi à Rennes, à Strasbourg et à Bastia. Hein, tout ça à l'ombre, évidemment. Au soleil, c'est beaucoup plus. 29 à Nice, 28 à Lille et à Metz. Vous aurez 25 à Brest et vers Le Havre et Cherbourg, on sera plus vers les alentours de 22-23 degrés.
Et dans le ciel, du bleu quasiment partout.
Oui, ça commence dès ce matin. Il y a quand même un peu de brume et de brouillard quand même vers le nord de la Bretagne et les côtes normandes, mais ça va vite se dissiper. Sinon, c'est du bleu partout ce matin. Cet après-midi, on conserve le bleu. Allez, pour donner quelques bémols, il y aura des cumulus dans le nord-est, mais ça va juste décorer le ciel. Hein. Ça va donner des petits points blancs dans le ciel bleu. Et puis, en montagne, peut-être une averse. Alors, sur le relief Corse ou le sud des Alpes, mais sinon partout ailleurs, on va conserver ce bleu.
Et alors, on précise que la vague de chaleur commence demain.
Oui, elle commence demain par le sud-ouest et elle va s'étendre à tout le pays jusqu'à lundi. Lundi devrait être la journée la plus chaude d'ailleurs, si on comprend les températures et de la nuit et de l'après-midi. Donc jeudi, vendredi, samedi et dimanche, peut-être une baisse par l'ouest à partir de mardi, mais ce n'est pas sûr.
Quels sont les critères d'une vague de chaleur? C'est pas un pic de chaleur, hein,
c'est pas non, non, c'est pas la même chose, c'est plus important qu'un pic de chaleur. Il y a des indicateurs très précis. En fait, il faut que pendant 3 jours, on ait un indicateur national thermique. Vous savez, c'est la moyenne des températures sur 30 villes du matin et de l'après-midi. Il faut que cet indicateur thermique soit pendant 3 jours au-dessus ou égal de 23,4 degrés, c'est précis. Et dans ces 3 jours, il faut moins qu'il y ait une journée à 25,3. Et on aura bien cette vague de chaleur là dans les jours prochains.
C'est bien noté. Merci beaucoup Marina. Bonjour Amandine Bégaud, bonjour Thomas Soto.
Bonjour Jérôme Florin, vous allez bien?
Et bah très très bien, on vous passe le relais sous ce beau temps.
Avec plaisir, merci à vous et à demain matin. Bonjour Amandine.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
On l'évoquait avec Marina Giraudeau, va-t-on vers un été caniculaire? S'interroge également le Berry Républicain. Alors difficile pour l'heure de se projeter à ce point-là, de répondre à cette question. Même si vous l'avez entendu, il va faire plus de 30 degrés sur les deux tiers du pays ce mercredi. 30 degrés à Paris, par exemple. Et ça va durer quelques jours. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Tiens, ce matin, 64 900 avec le mot-clé matin.
La température qui continue de monter au sens figuré, cette fois dans ce qui ressemble de plus en plus à un conflit à trois avec Israël, l'Iran et les États-Unis. L'Amérique de Trump va-t-elle vraiment entrer dans la guerre? C'est la grande question qui reste